Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des tours carcérales. Ce soir, eh bien, c'est notre deuxième émission. Nous sommes les étudiants du GENEPI, Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Alors notre première émission, peut-être l'avez-vous déjà écoutée, elle a été diffusée samedi dernier, le samedi 29 mars. Pour prendre les ondes, on s'était rapidement présenté. Et aujourd'hui, eh bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet en abordant un grand thème de la détention, à savoir la vie en détention. Comment ça se passe concrètement? Alors, ce soir, il y a Caroline, il y a Paul, il y a Mélissa, Léa et Marion. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Alors voilà, tout au long de l'émission, on va s'écouter des petites interviews de l'administration pénitentiaire. On a aussi une interview de l'aumônier catholique qui intervient à la maison d'arrêt de Tours. Une interview de l'entraîneur sportif aussi, monsieur Jean Pietri. Ils nous expliqueront un petit peu leur vision des choses quant à la vie en détention. Et nous, on essaiera de rebondir à chaque fois en traitant tous les thèmes qui ont été abordés dans les interviews. Avant de commencer cette émission, eh bien, on vous rappelle que vous pouvez participer aussi à cette aventure en nous écrivant soit sur notre adresse mail groupe.tour@genepi.fr ou alors en laissant des commentaires sur les podcasts, bien sûr sur le site internet de la radio, radiocampustour.com. Voilà, et bien sans plus tarder, place à l'émission Détour carcéral, vie en détention, épisode 2. Et sans plus tarder, on s'écoute l'interview de Madame Lisée, la directrice de l'établissement.
Comment vous définiriez l'ambiance générale de la détention ?
C'est une question difficile. On est dans une maison d'arrêt qui est plutôt provinciale, avec une délinquance plutôt locale, des gens majoritairement plutôt calmes.
Au niveau des arrivées et des départs, comment ça se déroule ?
Alors, toutes les personnes détenues qui arrivent à l'établissement passent par ce qu'on appelle un circuit arrivant qui dure 4 jours minimum. Ils rencontrent en premier lieu un personnel du greffe. Ça, c'est le personnel qui va s'assurer que le titre de détention est valide. C'est-à-dire que la pièce que la justice nous produit permet de maintenir détenue la personne. Après, vous rencontrez la personne du vestiaire et puis après, vous rencontrez le surveillant du quartier arrivant. Au cours de ce processus, leur sont remis un certain nombre de ce qu'on appelle le paquetage, qui contient par exemple les effets de couchage, qui contient la vaisselle, qui contient une trousse de toilette, qui contient des produits d'hygiène pour la cellule. Des tables, des enveloppes pour démarrer aussi la détention. Et après, pendant leur temps de quartier arrivant, ils seront rencontrés les jours ouvrables, le jour ou le lendemain par un conseiller d'insertion, le jour même en général par un des membres de la direction. C'est le moment aussi de faire le point sur leur niveau scolaire et de voir si ils ont besoin ou envie de rejoindre les cours. Et puis c'est aussi un petit quartier où le surveillant a davantage de temps que dans le grand quartier pour leur présenter les différentes activités.
D'accord. Ces relations avec les surveillants et même l'administration pénitentiaire, elles sont plutôt simples ? Elles s'établissent facilement ?
Ça dépend des caractères.
Voilà.
Mais c'est, en fait, on n'est qu'une micro-société, hein. Enfin, oui, ça peut s'établir tout à fait simplement avec certains, et puis de manière plus compliquée avec d'autres, qui ont un tempérament plus vindicatif, plus demandeur. On s'adapte au comportement de chacun.
Au niveau, donc, d'une façon un peu plus pratique, on va dire, au niveau des repas, comment ça se passe généralement au niveau de l'horaire, au niveau de la qualité des repas ?
Alors, les repas, faut enlevés de l'image qu'on s'en fait, ils sont pas servis dans un réfectoire, hein, ils sont servis en cellule, ils sont élaborés, j'ai un technicien cuisinier, moi, qui est un membre d'administration, qui a une formation spécifique, ils sont faits en lien avec la direction interrégionale qui veille avec des diététiciens à l'équilibre des repas, comme dans une cantine, comme dans une maison de retraite, et voilà, ils sont servis de manière individuelle en cellule. Les personnes détenues peuvent choisir entre trois types de menus, ce qu'on appellera le menu ordinaire, le menu sans porc ou le menu végétarien. Ça, c'est au choix des personnes détenues. Et évidemment, s'il y avait une quelconque contre-indication médicale, on adaptera en fonction de ce que le médical nous demandera.
Et au niveau des horaires, du coup, ça se passe vers quelle heure, le déjeuner, petit déjeuner, dîner?
Donc le petit déjeuner, bah, ils peuvent le faire quand ils le souhaitent en cellule. Le déjeuner, on le sert entre, on va dire, midi moins le quart et midi et quart. Et le dîner, on va le servir entre 6h moins le quart et 6h et quart. Comme dans les collectivités de manière générale.
C'est ça. Donc du coup, ils ont la possibilité de se faire à manger, donc pour le petit déjeuner, comme vous disiez. Pour les déjeuners, dîners, ils ont également la possibilité?
Non, alors quand je dis pour les petits déjeuners, c'est possible parce qu'ils peuvent acheter des bouilloires en cantine. Donc comme ce qu'on leur donne pour le petit déjeuner, c'est des petits déjeuners lyophilisés, donc ça se reconstitue avec de l'eau chaude. Pour le déjeuner, le dîner, ben non, il faut qu'ils mangent quand on leur sert, sinon ils n'ont pas de moyen de cuisiner dans les cellules.
Dans les cellules, d'accord. Ok. Donc justement, donc vous parlez, voilà, qu'ils peuvent donc cantiner les bouilloires, les choses comme ça. Donc voilà, comment ça se passe en fait, le cantinage?
Alors, d'abord, chaque personne détenue a un compte à l'établissement, comme un mini compte en banque, en fait. Hein, quand le détenu arrive, il peut avoir sur lui une somme d'argent qu'il dépose donc à l'établissement. Ils n'ont jamais d'argent sur eux en détention.
D'accord.
Après, pour alimenter ce compte, bah, soit ils travaillent et c'est le produit de leur travail, soit les familles subviennent à leurs besoins et adressent soit des mandats, soit des virements via Internet. L'avantage du virement Internet, c'est que c'est sans frais pour la famille. Malheureusement, toutes les familles n'ont pas accès à Internet non
c'est
plus.
Ça.
Donc, après, voilà. Et puis, bah, après, bah, la personne détenue a la possibilité de faire des bons de commande toutes les semaines. Et puis, si son pécule, si ce qu'il y a sur son compte le permet, eh bien, on débite le compte et il reçoit la marchandise les jours prévus.
D'accord. Et donc ça peut être voilà du cantinage aussi bien donc de bouilloire que de tabac,
de tabac, de revues, de produits d'hygiène, de produits alimentaires, de boissons, voilà.
Voilà, donc c'était la première partie de l'interview de Madame Lisée. On peut d'abord rebondir sur le fait que quand on utilise le terme de maison d'arrêt, on parle essentiellement de la maison d'arrêt de Tours. Et si jamais on en vient à parler des autres maisons d'arrêt de France, on le précisera à chaque fois.
Moi, je reviendrai aussi sur quant à l'emploi, l'adjectif calme pour décrire l'ambiance de la prison. Donc, effectivement, peut-être qu'elle parlait au niveau du comportement, je ne sais pas, mais ça me fait tout drôle puisque justement, moi, une des premières choses qui me frappe quand je rentre en détention, c'est justement tout ce bruit, ces bruits des trousseaux de clés sans cesse, des cris, le bruit. Parce que ça résonne aussi beaucoup dans les couloirs des détentions.
Les talkie-walkie aussi,
ouais.
Tout le temps.
Les talkie-walkie, ouais. Ouais, c'est vrai.
Au niveau des conversations entre les détenus, les surveillants. Alors, Madame Lisée parlait donc du circuit arrivant, du coup, quand les nouveaux détenus ou prévenus arrivent au sein de la maison d'arrêt de Tours.
La différence entre détenu et prévenu, un prévenu, c'est quelqu'un qui n'a pas encore été jugé, alors qu'un détenu a déjà été jugé et du coup connaît sa peine définitive.
Donc du coup voilà, dans le circuit donc arrivant, donc elle parlait de 4 jours où la personne qui vient juste d'arriver passe dans ce quartier arrivant. Faut savoir que oui, ça peut aller jusqu'à une semaine, mais comme il y a beaucoup d'arrivants, qu'il y a un grand turnover du coup au sein de la détention à Tours, généralement ça va peut-être se raccourcir généralement jusqu'à 2 jours. Donc c'est là effectivement il va y avoir la distribution donc du paquetage et du livret d'accueil. Dans le paquetage, comme disait donc Madame Lisée, il va y avoir donc tout ce qui va être produits d'hygiène, produits donc pour le corps,
brosse à dents, savon.
Ouais. C'est ça, voilà. Puis aussi entretien de la cellule, parce que du coup c'est eux qui s'en occupent. Il va y avoir des dosettes de café aussi, il me semble. Enfin,
c'est possible.
Ils peuvent se faire leur petit déjeuner le matin. Mmh. Par contre, elle a Madame Lisée parlait de qu'on pouvait pas faire les repas le soir, enfin ses propres repas tout ça. Par contre, ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut cantiner justement de la viande crue.
Crue, ouais.
Donc c'est un petit peu paradoxal quand elle dit qu'elle peut pas, qu'ils peuvent pas se faire à manger le soir. Donc c'est ça veut bien dire qu'ils trouvent un système D
des moyens
pour pouvoir se faire à manger et que ça a l'air d'être entre guillemets accepté par l'administration puisqu'il y a possibilité de cantiner ces choses-là.
À savoir que le cantinage justement est proposé par la détention, donc c'est la détention qui sélectionne les produits à cantiner, donc à vendre aux détenus et donc c'est eux qui choisissent effectivement de vendre des viandes crues, donc c'est quand même étonnant.
Quand je parlais tout à l'heure du système D, il y a par exemple les yo-yo. Ça, c'est les détenus entre eux qui se font passer, qui font du troc entre ce qu'ils ont et ce que les autres ont, et ils font des échanges comme ça.
Après, on peut peut-être rebondir sur le fait aussi que du coup, à l'intérieur de la détention, pardon, les différences sociales se reproduisent puisque les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens au sein de la détention ne vont pas pouvoir cantiner justement et s'offrir ce que d'autres vont pouvoir s'offrir.
Alors d'autant plus que le cantinage, il faut savoir que le prix de tous les produits sont élevés, ça peut parfois faire de grosses différences, hein, jusqu'à 30% plus cher au maximum. Et donc effectivement, ça c'est quelque chose qui peut favoriser le troc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de troc en détention. On parle même de pouvoir échanger des médicaments, malheureusement, qui sont prescrits et nécessaires pour les détenus, contre tel ou tel avantage.
Oui, des cigarettes, du tabac. Ouais. Et justement, parlant d'inégalité sociale, c'est vrai que du coup, quand la personne va arriver au sein de la détention, donc en plus de ce pactage, on va lui remettre le livret d'accueil pour l'expliquer du coup tout ce qui est le fonctionnement de la maison d'arrêt, les différentes associations qui interviennent, les droits et les devoirs qu'il y a au sein de cette micro-société, comme disait Madame Lisée. Par contre, voilà, effectivement, pour les personnes illettrées ou les personnes étrangères, c'est vrai que c'est pas forcément travaillé derrière pour ces personnes-là et qui du coup sont pas forcément conscientes de leurs droits, notamment le droit de vote, puisque c'est d'actualité. Et du coup, ouais, voilà.
Et enfin, moi, je rebondirai aussi sur une dernière chose avec ce pactage arrivant. C'est que, bah, effectivement, c'est le truc tout bête, mais ils vont avoir tous le même shampoing avec la même odeur, tous les mêmes brosses à dents. Donc, quand ils sont trois dans une cellule, ça doit être compliqué de retrouver la sienne. Ouais. Donc, je pense aussi que tout ça, ça participe à l'uniformisation des détenus. Et effectivement, même si aujourd'hui, il n'y a plus d'uniforme en détention, bah, on retrouve quand même des choses similaires dues à ce qu'on leur propose.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Donc voilà, avant d'écouter la deuxième partie de l'interview de Madame Lisée, on va vous proposer une petite coupure musicale et on vous propose MC Solar, Arkansas.
À l'âge de 6 ans, mon cadeau de Noël, une arme en plastique, réplique industrielle. Il y a des guirlandes partout dans la maison. Je remercie Santa Claus parce qu'il a été bon à l'âge de 7 ans. Il m'en fallait une autre malheureusement. Je l'ai trouvé, à qui la faute? J'étais devenu expert dans le tir instinctif. Entendre toutes ces détonations était mon seul kiff. Pour moi l'avenir était au bout de mon canon. Mon père avait des armes et on tirait devant la maison sur des bouteilles vides, comme dans les films de John Ford. Et comme je visais juste, j'ai eu la garde-robe, un treillis camouflage et puis des bottes de pluie. Arme automatique, revolver et Uzi, fusil de chasse, Fall, Glock. Un jour de bon matin, j'ai tiré sur le coq. Puis dans la cour de l'école, je m'embrouille avec une fille. Quand j'y pense aujourd'hui, c'était des broutilles. Pour me venger, je prépare une opération. Ouvre le garage, sélectionne des munitions. 9h du matin, on se place devant l'école avec mon pote John. On patiente, on boit de l'alcool. Habillé dans les feuillages, j'attends la sonnerie. Avec un genou à terre, non c'est pas des conneries. Porté par l'adrénaline, j'arme la M16. J'ai eu ma première victime, à le fusil à lunettes, c'est comme un jeu. Tiens, je te vends un feu, tu fumes qui tu veux. On est en Arkansas, mon père dit sans cesse et sans sas. Port d'armes, il aime les actions. En classe de mort, 11 blessés, CNN parlant de moi. Steve Carter, enfant de 8 ans, de 8 ans, de 8 ans.
Au niveau du contact avec les familles, du coup, donc effectivement, il va y avoir tout ce qui est téléphone et parloir. Au niveau des lettres, la possibilité d'écrire aux familles, aux amis, comment ça se passe ?
chaque personne détenue écrira qui il veut, sous pli ouvert, parce que le courrier est contrôlé, soit par le juge d'instruction quand l'affaire n'est pas jugée, soit par l'établissement, voilà, afin de garantir qu'il n'y a pas de menaces ou d'insultes envers l'institution ou envers l'État français de manière plus large.
D'accord. Donc ils peuvent écrire à tout le monde, donc y compris donc les services administratifs comme leurs avocats.
Tout à fait.
Là aussi, est-ce que voilà, là aussi, est-ce que
les avocats sont plis fermés?
Les avocats sont sous plis fermés.
Voilà. Président de la République sous plis fermés. Contrôleur des lieux privatifs de liberté sous plis fermés.
D'accord. Tout ce qui va toucher, voilà. Ok. Et le nombre de courriers qu'ils peuvent écrire aux avocats ou ce genre de choses sont illimités.
Pas de limitation.
Voilà. D'accord. Au niveau du coup des parloirs, combien de temps va durer un parloir? Est-ce qu'il y a un nombre limité?
Ça dépend si le détenu est prévenu ou condamné, ça dépend de sa catégorie pénale.
D'accord.
Les prévenus ont le droit jusqu'à 3 visites par semaine et les condamnés une seule par semaine. Le temps de parloir est d'une demi-heure pour les condamnés, de 40 minutes pour les prévenus.
D'accord.
Je suis en train de travailler sur les parloirs. On devrait évoluer de manière plus favorable pour les personnes détenues, modestement.
D'accord.
Voilà.
De façon à ce qu'il y en ait de façon plus nombreuse ou qu'elle soit plus longue?
Qu'elle soit plus longue.
Qu'elle soit plus longue,
oui.
D'accord.
Si l'effectif de la maison d'arrêt le permet.
Oui.
C'est aussi plus on a de détenus et plus c'est compliqué à organiser.
D'accord. Donc du coup, donc, vous disiez 3 pour prévenu, un pour condamné. Lorsque le détenu ou le prévenu reçoit la visite de son avocat, est-ce que c'est décompté comme une visite?
Pas du tout.
Non, ça va vraiment être les parloirs familiaux.
Les droits de, voilà. Les droits de la défense ne sont pas du tout compter dans les parloirs, non. L'avocat peut venir tous les jours s'il veut, ça pose pas de difficulté.
D'accord. Par contre, du coup, est-ce qu'ils sont retirés du temps de promenade?
Ah, alors la promenade, c'est 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Si la famille se présente au moment de la promenade, bah oui, ça va être la personne détenue qui va faire le choix de principalement de choisir sa famille.
Voilà.
Et pareil si c'est l'avocat. Tandis qu'ils ne connaissent pas leur horaire de promenade à l'avance, effectivement, ça va être l'un ou l'autre. Ça ne pourra pas être les deux.
D'accord. Très bien. On parlait tout à l'heure donc de la possibilité donc que les détenus travaillent pour alimenter leur mini compte en banque à la détention. Concrètement, voilà, qui peut travailler en détention du coup?
Tous ceux qui sont aptes et qui en font la demande dans la limite des places disponibles.
D'accord. La sélection des détenus se fait donc uniquement selon le nombre de places possibles?
Non, elle se fait sur plusieurs critères, enfin évidemment sur le nombre de places possibles, mais après on a aussi une liste d'attente et on appelle ça classer les détenus au travail. Ça se décide en commission pluridisciplinaire, une commission pluridisciplinaire qui se réunit chaque vendredi et chaque fois que de besoin, chaque fois qu'il y a des places au travail, examine effectivement ce volet-là.
D'accord. Une personne qui travaille en détention va pouvoir espérer toucher combien à peu près au niveau du salaire?
C'est variable. Ça va dépendre du travail qu'elle va fournir. Joker. j'ai pas pris les documents.
D'accord.
Je ne sais pas vous le dire
vous
spontanément.
Vous auriez pas, voilà, oui, même une fourchette ou voilà, ça va vraiment dépendre.
Je regarde, je sais pas.
D'accord. Du coup, quel genre de travail est proposé? Est-ce que ça va être du travail, des formations professionnelles?
3 types de choses, alors, vu comme ça. Ce qu'on appelle le service général. Donc là, ils travaillent pour les services de l'établissement. Par exemple, quelques-uns travaillent en cuisine, quelques-uns travaillent à distribuer les repas et à entretenir les parties communes. Le bibliothécaire, donc ça, c'est ils sont employés par l'administration et payés par l'administration. Et puis, après, ils travaillent en atelier. Là, ils travaillent pour des entreprises locales qui nous fournissent du travail.
D'accord.
Voilà.
Ok, d'accord, très bien.
Et la formation professionnelle,
voilà.
Puisqu'on en a parlé. Et donc la formation professionnelle, 3 sessions par an de 5 semaines, une formation qui n'est pas qualifiante, qui est préqualifiante, qui leur permet de découvrir les métiers de la logistique, pardon, et de l'électricité.
D'accord.
bien souvent, ils ont été assez éloignés du monde du travail. Ça leur permet de savoir, enfin, de découvrir les métiers, de savoir s'ils souhaitent s'orienter vers ces métiers-là ou s'ils doivent axer leur recherche vers d'autres choses.
On parlait également tout à l'heure, quand vous décriviez un peu la pluridisciplinarité de la maison d'arrêt, donc de professeurs de l'éducation nationale. Donc au niveau, voilà, une fois en détention, au niveau des diplômes, comment ça se passe? On peut reprendre ses études, on peut les continuer si, admettons, on était déjà en cours de formation?
Tout à fait. Au désir de chacun, sauf pour les mineurs, hein, où il y a une obligation scolaire jusqu'à 16 ans, une forte incitation à aller suivre les cours entre 16 ans et 18 ans. Après, au-delà de ça, chacun est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. On peut passer des diplômes, on peut passer le brevet des collèges, et ça nous arrive assez régulièrement. On peut passer le bac, on peut passer des CAP ou des BEP. Là où ça se complique, c'est quand il y a des épreuves très techniques. Donc sur les épreuves théoriques, ça pose pas de difficultés. Sur les épreuves techniques, ça peut en poser.
D'accord, ce sera plutôt à voir limite à repasser,
oui,
après la sortie
à l'extérieur,
du cours.
C'est ça.
D'accord, ok. Vous m'aviez dit donc deux professeurs de l'éducation nationale,
c'est ça, à temps plein. Oui, plus d'autres qui interviennent, je crois, pour une quinzaine d'heures au total sur des vacations.
D'accord. Et donc les professeurs donc qui sont à temps plein, ça va être combien d'heures par semaine à peu près?
Je sais pas.
Pour un même groupe de détenus, admettons, hein, pas sur tous les.
Ça va dépendre des groupes, en fait. Vont être prioritaires ce qu'on appelle les faibles niveaux, donc les gens qui vont faire du français langue étrangère, hein, qui ne sont pas français à la base et qui ont donc des difficultés, les illettrés. Je ne sais pas vous dire par catégorie combien d'heures chaque détenu peut recevoir.
D'accord.
C'est plutôt à l'enseignant qu'il faudrait poser la question.
Outre les promenades, du coup, si admettons le détenu arrive à un moment où il y a deux activités en même temps, si par exemple donc il a son activité, par exemple Génépi, et en même temps qu'il avait postulé pour aller à la bibliothèque, est-ce qu'on va l'envoyer à la première personne qui est là, si c'est Génépi qui est là en premier, ou à la bibliothèque, où on va lui laisser le libre choix?
Ça va dépendre. Si la personne détenue se souvient qu'elle est inscrite sur deux choses, elle va pouvoir faire son choix. Si elle se souvient pas, puisque les repères temporels en détention sont quand même pas les mêmes qu'à l'extérieur, hein. La semaine se rythme pas de la même manière. Je pense qu'on peut perdre un peu ses repères. Donc oui, il y a une grande chance pour que ce soit le premier arrivé qui soit retenu.
Les questions sont terminées. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter éventuellement?
Écoutez, vous parliez beaucoup d'obligations, de droits, etc. La seule obligation, c'est le respect de l'autre. Après, le reste, c'est la personne détenue qui organise son parcours de détention et qui en fait un moment utile pour elle ou pas.
Madame Lisée, merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci.
Et voilà, c'était la seconde donc, partie de l'interview de Madame Lisée. Je rappelle, directrice à la maison d'arrêt de Tours. Alors, sur quoi avez-vous envie de revenir par rapport à ce qui a été dit?
Ben moi, j'aimerais bien déjà revenir sur la dernière phrase, parce qu'elle est assez magique quand même. C'est vrai qu'elle dit que c'est le détenu qui choisit son parcours de vie en détention. Si tout était aussi simple, ce serait magnifique, mais bon. Voilà, sinon, peut-être qu'on peut rebondir sur le courrier.
Ouais.
Oui, bah, concernant les courriers, ce qu'il faut rappeler, c'est que presque tous les courriers sont quasiment ouverts et lus par l'administration pénitentiaire. Donc il y a quelques exceptions. Ça, les courriers pour les avocats, pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Pour l'aumônier aussi, elle ne l'a pas précisé.
Pour l'aumônier aussi.
On a une partie interview avec l'aumônier, il le reprécise.
Voilà. Et il faut aussi dire qu'il y a quand même une certaine subjectivité de l'administration pénitentiaire quant à la lecture de ce courrier-là. C'est elle qui apprécie si c'est une atteinte à l'État ou non, et est-ce qu'il faut censurer ou non, donc voilà.
Alors à savoir aussi toutes les répercussions psychologiques que ça, puisque au niveau du respect de l'intimité, enfin voilà, j'imagine que ça doit être assez intrusif de savoir que notre courrier va être lu par des gens qu'on connaît pas et qui vont du coup savoir des choses sur notre vie, des choses qu'ils ont peut-être, enfin qu'on a peut-être pas envie de partager avec eux. Je pense au courrier pour la famille notamment. Et on peut aussi préciser que lorsqu'il y a des choses qui ne conviennent pas dans ces courriers, la façon dont c'est censuré, ça peut être sous quelle forme?
Ça peut être carrément les mots qui sont noircis.
qui sont barrés.
Ouais.
Ou alors sinon des fois ça va être les mots ou les phrases qui ne conviennent pas qui sont découpés. Donc ça va être un courrier qui va arriver un peu troué en gruyère.
Oui c'est ça, il ne va plus vouloir rien dire.
Il ne va plus vouloir rien dire.
Ou alors totalement censuré, il ne sortira jamais.
C'est ça, il va juste y avoir quelques phrases du type « je vais bien, tout se passe bien ». Limite la prison c'est chouette en fait, il faudrait que les détenus écrivent dans leur courrier aux familles finalement. Donc,
Et ça doit même être particulier pour ceux qui reçoivent le courrier,
bien sûr.
Sachant que ils doivent toujours être dans le doute de se dire est-ce qu'il y a que ça.
Bah, puis c'est-à-dire que c'est même pas de la censure cachée finalement, c'est la personne reçoit son courrier en troué ou noirci, c'est que la personne sait que du coup son proche qui est en prison a besoin de discuter, a besoin de dire des choses, et comme c'est même pas de la censure cachée, ça va générer encore plus d'inquiétude, parce que déjà la situation d'avoir quelqu'un en détention n'est pas simple à vivre pour l'extérieur, enfin pour la famille extérieure. Si en plus on sait que la personne veut nous dire des choses et qu'on nous empêche de les savoir, j'imagine qu'au niveau de l'inquiétude et du mal-être de la famille, et même du détenu puisqu'il le sait, doit pas être simple à gérer, c'est sûr.
Et à l'inverse, quand la famille envoie un courrier au détenu, là aussi c'est lu ?
Oui.
Oui, donc vraiment tout échange est contrôlé.
Il n'y a aucun moyen de savoir si la personne détenue a reçu le courrier que tu as envoyé. Ouais.
En plus,
sauf si tu vois cette personne, elle te dit bah non, j'ai rien reçu. Donc là, tu le sais.
Oui, mais... donc ça peut amener à des quiproquos, j'imagine. C'est ça. Un vicote, ok, pas évident.
Et c'est la même chose pour les conversations téléphoniques. Je ne sais plus si Madame Lisée le précise, mais les conversations téléphoniques sont susceptibles d'être enregistrées. Elles ne le sont pas automatiquement. Bon, pareil, la même façon que le courrier, si c'est à l'avocat qu'il téléphone ou des services administratifs de ce type-là, c'est sûr et certain, ne sera pas écouté. Mais quand il passe un coup de téléphone à sa famille, ça peut être enregistré. Pas automatiquement, mais c'est potentiellement enregistrable.
Et quant au Génépi, on peut peut-être préciser aussi que depuis cette année, l'année dernière, je ne sais plus, on a obtenu l'autorisation de recevoir des courriers provenant de personnes incarcérées qui pourraient nous écrire sans être soumis à la censure. Donc ça nous permet aussi de témoigner, de reprendre la parole des détenus directement. Et ça, c'est vraiment un avantage qu'a le Génépi, voilà, très récemment.
Voilà, on peut aussi rebondir au niveau des parloirs. Sur les différents temps de parloir, les différentes fréquences de parloir entre les prévenus et les condamnés. Qu'on a dit tout à l'heure, la différence entre prévenus et condamnés. Les prévenus sont ceux encore en attente de jugement, les condamnés sont ceux qui ont reçu leur jugement. Et du coup, comme on entendait dans l'interview de Madame Lisée, on entendait que les prévenus, qui donc étaient encore en attente de leur jugement, si je me trompe pas, avaient plus de parloirs et des parloirs plus longs que les personnes condamnées.
Oui,
c'est ça. Voilà.
Au niveau du travail aussi, on en a quand même pas mal parlé dans cette interview. Donc c'est vrai qu'il y a des commissions qui choisissent les détenus, et ça c'est pas forcément simple non plus, j'imagine, pour eux de voir quel détenu peut s'entendre avec quel détenu.
Oui, tout à fait, surtout que c'est pas qu'au niveau du travail, c'est au niveau de toutes les activités de la détention.
Ouais.
Ça peut aussi être pour le sport, pour toutes les activités qui sont proposées au sein même de la détention. Des commissions se réunissent pour choisir les détenus.
Mais voilà, moi si c'est juste pour mon expérience personnelle, le détenu avec qui je suis, moi, avec qui je donne du soutien scolaire depuis le début de l'année, il était en grosse demande d'apprentissage scolaire depuis facilement un an et demi, et c'était impossible pour l'administration de réussir à le caser dans des cours normaux collectifs
avec
l'éducation nationale. Donc ça a été obligatoirement avec moi, sinon c'était pas possible pour lui.
Alors sachant que pour le travail, ils essayent aussi de donner la priorité aux indigents. Je sais pas si elle l'aborde dans cette interview, je me souviens plus.
Les
indigents, c'est les personnes qui ont vraiment peu de ressources. Alors je connais pas exactement le chiffre, mais c'est vraiment quelques euros par jour. 5 euros par jour ?
Non, c'était par mois, je crois.
45 euros par mois.
Bon, bah, c'est encore même carrément moins que ça. Donc vraiment ceux qui ont très peu de ressources, et ils ont quand même un accès prioritaire au travail, mais bon, c'est quand même très délicat. Elle l'a pas précisé aussi, mais on dit d'un détenu qui travaille pour l'administration pénitentiaire, donc à la blanchisserie ou la distribution des repas, le ménage, que c'est des oxys, voilà, pour mettre le mot. Si vous l'entendez quelque part, maintenant vous savez de quoi il s'agit.
Donc au niveau de l'éducation nationale aussi, il y a certains diplômes que les détenus peuvent passer en détention, qui sont l'équivalent du bac qui s'appelle le DAEU, et l'équivalent du brevet qui s'appelle le CFG.
À savoir que c'est pareil, il me semble qu'on priorise les détenus qui ont un faible niveau scolaire plutôt que ceux qui ont des hauts niveaux.
Beaucoup d'alphabétisation au final, c'est vrai qu'on s'en rend compte, même nous, ne serait-ce qu'au niveau de notre action de soutien scolaire en tant que génépiste, ça va être beaucoup de... Oui, beaucoup d'alphabétisation finalement.
Sur les personnes qu'on suivait là depuis le début de l'année, il y avait une personne niveau bac et une personne niveau brevet, donc ça restait très faible.
Et Madame Lizet aborde aussi à un moment la notion du temps, en disant que certains pouvaient perdre leur repère temporel. Donc je voulais revenir un peu là-dessus parce que effectivement l'enfermement, surtout en maison d'arrêt, est quand même très conséquent. Hein, c'est-à-dire que sur une journée de 24 heures, ça peut aller jusqu'à 22 heures d'enfermement ou même 24 heures si le détenu ne souhaite pas aller en promenade. Et hormis ça, toutes les journées se répètent sans cesse. C'est-à-dire que ça va être rythmé par le repas du matin, du midi, du soir. Ça va être rythmé par les promenades. Mais voilà, le week-end ne se différencie pas des autres jours, les anniversaires, pas forcément, les mois non plus. Et en ceci, effectivement, quelqu'un peut rapidement perdre ses repères temporels, d'autant plus quand il s'agit d'une longue peine. Moi, je me rappelle d'un détenu qui se souvenait plus de son âge, il savait plus s'il avait 51, 52, 53 ans. Ouais, et c'est quand même impressionnant de... d'entendre ça.
C'est-à-dire qu'on vous dit quand manger, quand dormir, quand boire, quand sortir. Et au final, c'est vrai que le détenu est très infantilisé, finalement. Quand on dit le détenu organise son propre parcours, pour reprendre les propos de Madame Lizet, finalement, c'est vrai que c'est pas si simple que ça, parce que est-ce qu'il y a vraiment un suivi qui est fait pour la personne derrière ?
La marge de manœuvre reste relativement faible, étant donné toutes les obligations et toute la surveillance auxquelles ils sont soumis.
Tout à fait.
On va passer par une petite coupure musicale, chanson du Forçat Gainsbourg, avant d'entendre l'interview de l'aumônier qui intervient à la maison d'arrêt.
Monsieur Gilles Rouxel.
Oh, 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 qui ne s'est jamais laissé enchaîner. Jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un dévadé. Oh, 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 faut-il pour voir un jour un ciel tout bleu? Un ciel noir trois jours sur deux. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, faut-il vraiment se laisser emprisonner? Moi je le connais, je suis un évadé. Oh, est-il nécessaire de perdre la vue?
Et donc on est de retour sur Radio Campus Tour dans l'émission Détour carcéral, et sans plus tarder, eh bien on s'écoute l'interview de l'aumônier catholique Gilles Rouxel.
Nous sommes en compagnie de Monsieur Rouxel, aumônier à la maison d'arrêt de Tours. Il est avec nous pour nous parler un peu de son rôle à la prison et comment il voit les choses et comment ça se passe. Je vous laisse vous présenter.
Oui, donc je suis aumônier à la prison de Tours depuis 5 ans. J'interviens à la prison le vendredi toute la journée et puis le samedi matin. Le vendredi, je vais voir les détenus dans leurs cellules, parce que l'avantage de l'aumônier, c'est que j'ai la clé des cellules, donc je peux aller les voir directement chez eux. Quand je vais les voir le vendredi, je vais les voir, c'est des dialogues entre d'homme à homme, quoi, on n'aborde pas forcément le sujet religieux, sauf s'ils le souhaitent. Et puis le samedi matin, je leur propose un temps de partage autour de paroles bibliques. C'est amusant parce que je prépare des petits textes et des chants, et tous les prisonniers chantent. C'est bizarre que ça puisse paraître, ça surprend beaucoup de monde, mais les prisonniers adorent chanter. Et voilà, donc c'est un petit temps de partage. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que quand je rentre dans une cellule de quelqu'un que j'ai encore jamais vu le vendredi, je me présente en tant qu'aumônier catholique et à chaque fois ils me disent « Ah oui, mais moi je ne suis pas pratiquant ». C'est la première question qu'ils me disent, ou alors ils me disent « Ça fait 20 ans que je n'ai pas mis les pieds à l'église ». Donc je dis que c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que c'est ce dialogue d'homme à homme. Et puis après, bon, bah, très souvent après, ils se confient beaucoup plus. Et puis ils me disent « Oui, finalement, je veux bien venir autant de prières, autant de partages ». Et puis aussi, ce que je leur propose, c'est le premier dimanche de chaque mois, il y a un prêtre de l'extérieur, un prêtre de Tours, qui vient et qui dit la messe. Et ça, c'est très important pour eux parce que ils ont l'impression de vivre le dimanche matin ce que vivent toutes les personnes qui font le choix d'aller à la messe. Voilà.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est un aumônier, que ce soit en prison ou ailleurs peut-être ?
Un aumônier, c'est quelqu'un qui est envoyé par une église. J'ai une église parce qu'il y a des aumôniers catholiques, des aumôniers protestants, des aumôniers musulmans qui sont envoyés par une église pour aller voir les personnes qui sont soit en détention, soit malades, etc. C'est-à-dire que quand vous êtes en liberté, c'est vous qui pouvez aller à l'église. Et quand vous êtes en détention, c'est l'église qui doit aller à vous, quoi. Donc c'est pour ça que le principe de l'aumônier, c'est ça, c'est d'aller voir les personnes qui ne peuvent pas venir à l'église, qu'elle soit catholique, protestante ou de culte musulman.
Et vous êtes le seul aumônier à intervenir à la maison d'arrêt de Tours ou il y a d'autres aumôniers ?
Donc on est pour l'instant trois aumôniers. Il y a un aumônier protestant qui vient pas les mêmes jours que moi. Il y a un aumônier musulman qui vient le vendredi. Et il y a moi qui viens le vendredi et le samedi.
Donc si j'ai bien compris, vous entrez dans les cellules des détenus. Est-ce que vous pourriez nous décrire une cellule, aussi bien dans l'agencement, mais aussi qu'est-ce qu'on y ressent, qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre pour la première fois dans une cellule ?
Alors déjà, oui, l'avantage de l'aumônier, c'est que c'est effectivement la clé des cellules. Je peux rentrer directement dans les cellules. Et ça, je suis une des seules personnes extérieures à pouvoir justement rentrer dans les cellules. L'aumônier a aussi d'autres avantages, c'est-à-dire que les courriers que les détenus me donnent ou m'envoient, etc., ne sont jamais ouverts, et inversement. Alors que sinon, tout courrier pour un détenu qui vient de l'extérieur, il est toujours lu et ouvert. Et voilà. Sinon, quand on rentre la première fois dans une cellule, effectivement, en toute honnêteté, on n'est pas très fier parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière, quoi. Sinon, une cellule, c'est quelque chose qui fait 9 mètres carrés, c'est-à-dire comme une toute petite chambre. Ils vivent entre 1, 2, 3, voire 4 détenus dans cette cellule-là. C'est tout en ciment, c'est moche, c'est triste. Enfin, je parle pour la prison de Tours. Ils ont une seule ouverture avec des grilles et des fenêtres, des vitres en plastique. Et ils ont un lavabo d'eau froide et des toilettes qui ne ferment pas. C'est uniquement des portes, un peu des portes de saloon, quoi. Donc tout ça pour dire qu'au niveau intimité, il n'y a strictement rien du tout, quoi. Ils sont complètement livrés avec les autres. S'ils veulent aller aux toilettes, forcément c'est devant tout le monde. Donc effectivement, c'est des personnes qui ont fait des bêtises, qui ont une dette à payer à la société, mais ça reste des êtres humains et on a vraiment l'impression qu'ils ne sont pas forcément traités comme tels, quoi.
Donc vous êtes témoin un petit peu de ce qui se passe en détention. Comment vivent les détenus ? Est-ce qu'ils sont contents, on va dire, des conditions de vie ? Ou est-ce qu'au contraire, ils revendiquent certains droits, je pense au niveau à la propreté, à la salubrité des lieux ?
Alors c'est vrai que les prisonniers qui sont incarcérés à Tours c'est une vieille prison, donc c'est effectivement très vétuste, il n'y a pas de douche à l'intérieur des cellules. Et tous, ils rêvent que d'une chose, s'ils ont des peines un petit peu plus longues, c'est d'être transférés dans une prison neuve. Ça, c'est leur... je ne vais pas dire que c'est leur rêve, mais presque. Et très souvent, je suis en contact avec ceux qui sont après transférés dans les prisons neuves, et beaucoup regrettent la prison de Tours. Pourquoi ? Parce que dans la prison neuve, c'est propre, c'est neuf, il y a des douches dans la cellule, c'est nickel, mais tout est électronique, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun contact humain avec les autres, avec les surveillants. Alors qu'à Tours, c'est le surveillant qui vient ouvrir la porte. Ce n'est pas toujours l'idéal, mais il y a souvent un bonjour, comment ça va, etc. Il y a un contact humain entre les prisonniers et les surveillants. Alors que dans les prisons modernes, c'est tout électronique, ils n'ont plus de contact humain. Et très souvent, ils me disent, finalement, à Tours, c'était pas si mal. Même si, effectivement, c'est insalubre, c'est pas très propre. Donc, il y a le côté propreté qui est bien dans les prisons neuves, mais le côté humain, il est plus là du tout, quoi.
Voilà, donc on peut d'abord dire que voilà, on est sans affiliation religieuse. On a eu une interview avec l'aumônier catholique parce que c'est le seul qui nous a répondu. On avait contacté les trois et du coup on a rencontré l'aumônier catholique.
Et c'est d'ailleurs pas le seul qui intervient dans la maison d'arrêt de Tours, puisqu'il y a aussi un aumônier israélite qui intervient donc à la demande. Et aussi en ce moment il y a une demande d'agrément pour faire venir un aumônier orthodoxe.
Donc voilà, aussi au niveau de la description de la cellule qu'a donné l'aumônier, faut juste rappeler que c'est pas vrai dans partout, en fait ça peut être un petit peu différent dans d'autres prisons. Et ce qu'il faut dire aussi par rapport à la prison de Tours, c'est que normalement il peut être 3 par cellule, mais qu'en raison de la surpopulation carcérale, ils peuvent être 4, et que le 4e, il est sur un matelas par terre.
Mais ouais, dans la maison d'arrêt de Tours, mais dans quasiment toutes les maisons d'arrêt, puisque les maisons d'arrêt, rappelons-le, sont extrêmement surpeuplées, contrairement au centre de détention, après les établissements pour peine, où là, les quotas sont plus respectés.
Donc voilà, aussi, au niveau de l'intimité, c'est pas très facile non plus, puisque dans les cellules où... il l'a dit, je crois, dans cette interview, que les toilettes sont pas fermées par de véritables portes, c'est vraiment les petits battants, donc ouais. C'est assez incommodant, et puis au niveau de l'intimité, pas facile du tout.
Faut pas avoir la gastro, quoi. Non, mais ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est que donc c'est des cellules petites, hein, je sais pas le nombre de mètres carrés exactement.
C'est environ 9 mètres carrés à la maison d'arrêt de Tours.
Ouais, voilà, donc voilà. Approximativement ça. Et effectivement, avec la surpopulation, quand on est 4 dans 9 mètres carrés, autant vous dire que l'espace personnel est très pauvre. Et que du coup, on impose aux détenus une certaine proximité qui n'est pas du tout naturelle. Voilà, on se retrouve avec des gens, quasiment 24 heures sur 24 qu'on connaît pas, avec qui on n'a peut-être pas d'affinité et dans une proximité et dans une intimité forcée, quoi.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et aussi au niveau de la répartition dans les cellules, il y a les condamnés et les prévenus sont séparés. Donc ils ne sont pas ensemble dans les mêmes cellules. Et les détenus, ils sont répartis aussi en fonction des crimes et délits qu'ils ont commis.
Il y a une espèce de hiérarchisation des crimes et délits qui se fait assez instantanément dans la détention. Et qu'effectivement, un violeur, par exemple, ne pourra pas être mis avec un voleur de voiture, par exemple. Hein, donc l'administration pénitentiaire prend soin quand même de placer les détenus en fonction de ce genre de critères.
Mais aussi en fonction des générations, voilà, les détenus peuvent se retrouver entre personnes qui ont 20 ans et d'autres personnes qui ont 60 ans, donc c'est pas forcément simple que les générations s'entendent. Et en plus de ça, il peut faire très très chaud l'été et très froid l'hiver, puisque notamment à cause des odeurs de cigarettes, les fenêtres sont ouvertes, ouais. et que du coup les températures ne sont pas forcément agréables.
C'est vrai que beaucoup de détenus fument énormément dans leurs cellules, et que dans 9 mètres carrés, si c'est pas aéré, on se doute bien que c'est vite irrespirable. Donc pour avoir visité des cellules, c'est vrai que j'ai rapidement eu cette sensation de froid qui est très, très désagréable.
Il y a pas mal de fenêtres aussi qui sont cassées. Tout à l'heure, tu disais, Paul, aussi pour... le côté yo-yo où on se fait passer des choses de fenêtre en fenêtre. Et puis pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Léa, sur les différences intergénérationnelles, c'est vrai que quelqu'un de 60 ans va peut-être se coucher un peu plus tôt qu'un gars de 20 ans, voilà, qui va pouvoir veiller assez tard et vouloir dormir le matin, alors que la personne un peu plus âgée aura un autre rythme de vie. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué pour dans les cellules quand ça se passe comme ça. Ouais.
Aussi, il faut parler des nouvelles prisons. Donc il y a de nouvelles prisons depuis quelques années qui sont construites, et il y a d'énormes différences avec les anciennes, justement. Donc il y a des douches au sein des cellules. Les cellules sont plus grandes, il y a plus de couleurs, mais contrairement aux anciennes, il y a un espace beaucoup plus scindé et il y a beaucoup moins de contact humain. Et quand on entend des interviews de détenus qui ont connu les anciennes prisons et les nouvelles, ils disent quasiment systématiquement qu'au final, ils préfèrent quand même les anciennes, malgré l'insalubrité et tout ce qui peut en découler, par rapport aux nouvelles, parce qu'il n'y a quasiment aucun contact humain.
Effectivement, pour avoir intervenu dans des nouvelles prisons, je redonne cet exemple souvent, mais le matin, on passait par 15 portes sécurisées. Et il y a peut-être, je sais pas, peut-être 7 gardiens différents qui devaient nous ouvrir certaines portes. Et c'est assez désagréable parce que souvent on se retrouve en face d'une vitre teintée. Donc on sait même pas s'il y a quelqu'un derrière ou pas. On sait même pas si on doit dire bonjour ou pas. On sait pas s'ils nous entendent. Mais c'est eux qui actionnent le bouton pour nous ouvrir une certaine porte. Et ça, ça se répète inlassablement. Je sais qu'on a passé, par journée, on passait peut-être 20 minutes à attendre devant des portes, quoi, en tout, si on faisait le calcul.
Mais c'est là où on voit bien aussi que l'administration, elle prend de plus en plus le pas sur l'humain, et c'est pas forcément agréable, ni pour les détenus, ni pour les surveillants, parce que c'est vrai qu'ils n'ont aucun lien direct avec les détenus. Ils ont vraiment le rôle de geôlier. Et
ouais. Eux aussi, d'ailleurs, peuvent s'en plaindre de ce manque de... Bah de proximité et du coup ouais qui entraîne rapidement un manque d'humanité, quoi. On est un peu dans du travail à la chaîne où le surveillant va ouvrir une porte de cellule, la refermer, en ouvrir une autre sans cesse.
Il y a un documentaire justement qui a été fait sur ça, sur le changement nouvelle prison, ancienne prison, nouvelle prison, qui s'appelle Le Déménagement, de Catherine, j'ai oublié son nom, mais c'était donc voilà, c'est un documentaire qui s'appelle Le Déménagement. Donc si vous avez éventuellement l'occasion de voir, n'hésitez pas. Et où justement voilà, on retrouve ces témoignages où bah certes ça facilite entre guillemets les mouvements, donc les changements pour la douche, les choses comme ça pour les surveillants qui du coup sont déjà débordés de travail. Mais effectivement, que ce soit détenu comme surveillant, il n'y a plus voilà ce contact humain, ce bonjour, ça va, etc. quoi.
On va lancer une petite coupure musicale. Des clashs, et puis on reprendra ensuite sur une deuxième partie d'interview de l'aumônier.
Et donc on s'écoute I Fuck the Law sur le 99.5. We'll be right back.
pour les personnes qui ne savent pas écrire, comment font-elles pour vous rencontrer la première fois, pour avoir vos coordonnées, je ne sais pas, pour pouvoir vous écrire?
Bah, aussi bizarre que ça puisse paraître, à la prison, il y a énormément de solidarité entre les détenus. Hein, j'ai vu une fois, je rentrais dans une cellule et je voyais un détenu qui était en train d'apprendre à lire et à écrire à son co-détenu. Et je trouvais ça super parce que le type en question qui apprenait à lire et à écrire, c'était pas un prof de lettres, etc. C'était un gars qui, à l'extérieur, était SDF et il apprenait à écrire à son co-détenu. Donc, quand il y a un détenu qui veut écrire quelque chose, c'est très souvent son co-détenu qui l'aide. Ça n'empêchera pas que le lendemain, ils vont peut-être se taper dessus, mais sur le moment, il y a énormément de solidarité les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant et qui est très beau à voir. Et je me gêne jamais pour leur dire que, ben voilà, c'est quelquefois à l'extérieur, il n'y a même pas une telle solidarité comme celle qui est à l'intérieur, quoi.
Comment ça se passe concrètement le culte en détention?
Alors, par exemple, l'aumônier musulman, il est là que depuis à peine 2 ans. Donc avant, dans mes temps de partage, mes temps de culte, il y avait des musulmans qui venaient, quoi, hein. Et sinon, le culte, eh ben, lorsqu'il y a la messe une fois par mois, le dimanche, c'est une messe comme à l'extérieur, c'est des prêtres qui viennent, hein, on prépare un petit autel avec une petite nappe, il y a la communion, etc. Et il y en a souvent d'ailleurs qui demandent aussi à se confesser, qui demandent d'aller voir le prêtre pour pouvoir se confesser, hein. Et ça, c'est, pour eux, c'est une libération.
Et d'un point de vue pratique, que ce soit la messe, les baptêmes, les choses comme ça, ça se passe où dans la maison d'arrêt?
Oh bah là, oui, là par contre, ça se passe dans une pièce, hein, toute bête. C'est vraiment le plus rudimentaire qui soit. C'est une table avec un bout de drap dessus, une espèce de petit lumignon qu'on achète 1 euro au Super U. Ben voilà, c'est vraiment du basique, mais c'est très bien comme ça. Et vous voyez, par exemple, la croix qu'on met sur l'autel, c'est une croix qui a été taillée dans une boîte d'allumettes par un détenu il y a au moins une dizaine d'années et qui sert toujours, quoi, hein. Et j'ai volontairement ne jamais voulu apporter des objets de l'extérieur, des objets de culte de l'extérieur, quoi. Bon, sauf effectivement ce qu'on appelle le ciboire et le calice, ça c'est des objets en terre que j'ai amenés, mais sinon tout le reste c'est des choses qu'ils ont fait eux-mêmes et qui sont là. Par exemple, le jour de Noël, il y a une crèche que l'on met, c'est une crèche qui a été faite par des détenus. Il y a je ne sais pas combien de temps, elle a au moins 15 ans cette crèche-là, mais on la ressort tout le temps et voilà. Donc c'est vrai que les moments de culte, c'est vraiment très 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 rudimentaire, mais c'est vraiment très très beau. C'est vraiment des temps de partage qui sont très très importants, ça.
Et je voulais savoir aussi si tous les détenus ont le droit de participer à ce genre de cérémonie, ou si le détenu doit remplir certains critères ou des choses comme ça.
Alors normalement, tous les détenus ont le droit de venir au culte. Mais par contre, moi, avant de les appeler, je suis obligé de donner la liste de ceux qui vont venir. Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a l'administration pénitentiaire qui ne veut pas que tel détenu rencontre tel autre détenu. Pourquoi? Parce que soit il va y avoir un problème physique entre eux, ou alors c'est aussi, s'ils sont impliqués dans la même affaire et que c'est avant le jugement, il faut éviter qu'ils se rencontrent, quoi. Mais c'est, de mémoire, ça a dû m'arriver 2 fois qu'on me refuse un ou deux détenus parce que, à cause de ça. En général, c'est jamais refusé, hein.
Bon, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Peut-être pour finir et revenir un peu aux conditions de vie des détenus, quelle est la plus belle chose que vous ayez vue en cellule, et à l'inverse, quelle est la chose qui vous a le plus choqué quand vous êtes rentré dans une cellule?
Ben, la plus belle chose, c'est peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'étais rentré dans une cellule et que j'ai vu un détenu qui apprenait à lire et à l'écrire à son co-détenu, quoi, hein. Et ça, je crois que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues, parce que je me suis dit, ben, cette solidarité, elle est vraiment très très forte en prison. Puis la chose la plus difficile, c'est peut-être il y a quelques années où j'ouvrais la porte d'une cellule et je savais que derrière cette porte, il y avait un jeune de 23 ans qui venait d'être jugé quelques jours avant et qui était condamné à 25 ans de prison. Et là, quand j'ai ouvert cette porte, je me suis dit, ce jeune, il a 23 ans, c'est l'âge de mon propre fils. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert cette porte et que j'ai vu ce garçon derrière, je me suis dit, on imagine son fils en train de père de famille à ce moment-là, quoi. Et je me disais que c'était l'un des moments les plus pénibles, quoi, hein.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et bonne continuation pour votre intervention à la maison d'arrêt de Tours.
Voilà, merci bien. Puis je pourrais peut-être dire une chose aussi que je leur dis à chaque fois quand je les vois. Je leur dis que de toute façon, quoi qu'ils aient fait, ils ont plus de valeur que l'acte qu'ils ont commis.
On va revenir juste sur une ou deux petites choses sur cette partie de l'interview. On peut dire que voilà, en détention, tout passe par l'écrit. Toutes les demandes que les détenus ont à faire.
Que ce soit au médecin, pour toute activité ouais, pour demandée.
Tout. Pour tout, il faut absolument que ce soit fait par écrit pour qu'il y ait une trace et que...
Ce qui peut poser aussi une certaine difficulté aux personnes qui sont analphabètes, illettrées.
Exactement. Voilà, et puis du coup, on a des systèmes de listes qui sont mis en place aussi, mais on en a parlé tout à l'heure avec les commissions, donc on va pas trop revenir dessus.
Non, ça a déjà été dit, je crois.
Ouais, non, je pense qu'en plus, l'aumônier était très clair dans son discours, donc on va passer rapidement. Et avant de s'écouter l'interview du moniteur sportif de la maison d'arrêt, monsieur Jean Pietri, je voulais vous rappeler que vous pouvez aussi vous emparer de cette interview en nous envoyant un message. Voilà, si vous avez des choses à dire sur ce qu'on a avancé ou si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à envoyer un mail à groupe.tour@genepi.fr ou à réagir directement sur le site internet radiocampustour.com via les podcasts de Détour Carcéral. Et bien sans plus tarder, on s'écoute le moniteur sportif de la maison d'arrêt de Tours.
Alors dites-moi du coup quelle formation vous avez?
Donc je suis surveillant à la base et donc j'ai une particularité, c'est que je peux encadrer le sport. Donc c'est un brevet de la jeunesse que j'ai passé au CREPS de Vichy.
Mm-hmm.
Et ce brevet me permet de faire des activités pour tous.
Et justement du coup en détention, qu'est-ce que vous proposez comme sport?
Alors il y a pas beaucoup de choix parce que c'est les détenus les personnes détenues qui aiment la musculation et le football.
D'accord.
On essaie d'imposer de temps en temps un petit changement, mais après ils veulent le gros ballon rond pour pouvoir jouer au foot. Voilà.
D'accord. Donc le sport, c'est sur la base du volontariat ou c'est
oui.
obligatoire? Sur la base du volontariat.
Volontariat.
Au niveau des groupes de détenus en fait qui sont sélectionnés, alors du coup déjà est-ce qu'ils sont sélectionnés et si oui de quelle manière?
Alors, tout d'abord, quand ils arrivent, ils ont le quartier arrivant à faire, donc ils ont un petit processus à faire, et donc ils sont aptes déjà médicalement. Donc voilà. Ensuite, ils font un petit courrier, comme quoi ils veulent participer aux activités sportives de l'établissement. Donc moi, je réponds au courrier, comme quoi, si j'ai de la place, eh ben ils intégreront la musculation tel jour, voilà. Si j'ai pas de place, vous êtes sur liste d'attente et j'ai mon petit cahier avec une petite liste d'attente et une fois qu'une place se libère,
vous reprenez la liste.
J'intègre la personne détenue.
D'accord. Et c'est à peu près combien de détenus par séance?
On tourne 14 maxi.
D'accord.
Mais souvent j'en ai 12. 12, 14, ça dépend.
Donc du coup, voilà, vous disiez plutôt demander donc l'avis général au niveau des sports qui sont proposés. Ouais. Au niveau des activités de temps en temps que vous essayez d'imposer pour changer un peu, vous avez essayé de proposer
j'ai
quoi?
Le Genepi qui vient,
oui. Hein,
qui une association qui s'appelle Évasion, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, de nom.
Donc ils viennent proposer le Tchoukball.
Oui.
Et l'Ultimate.
D'accord.
Voilà.
Ok. Pour finir, vous êtes le seul entraîneur sportif à temps plein ou il y a d'autres?
Je suis le seul.
Vous êtes le seul. D'accord, okay, très bien. Ah, si vous avez quelque chose à ajouter.
Les intervenants extérieurs.
Bah, je crois que ce qu'on peut dire sur le sport aussi, c'est qu'on essaye d'être un peu ouvert sur la cité, si je puis m'exprimer ainsi.
Mm-hmm.
C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on reçoit les jeunes évadés qui font du tchoukball et du ultimate. Mais aussi, on est en train d'instaurer un partenariat avec... le FC Tour.
Oui, j'y ai pas pensé alors que c'est...
voilà.
Hein,
voilà, on fait aussi de temps en temps quelques tournois de ping-pong. Mm-hmm. Et on faisait cela aussi avec un club des environs. Voilà, on est ouvert aux différentes pratiques sportives quand elles viennent de l'extérieur aussi, encadrées. Et voilà, mais effectivement, les détenus sont demandeurs du ballon rond
ouais.
et de la musculation.
Ouais,
je crois
ouais.
que ça, c'est la grosse demande. Et puis nos infrastructures, elles oui. nous permettent pas de faire beaucoup autre chose. Enfin, on pourrait faire du hand, on pourrait faire du volley, on pourrait oui. faire un peu de basket,
exactement.
Mais on peut pas aller tellement au-delà
voilà,
de ça au regard de nos infrastructures.
Et vous intervenez uniquement auprès du quartier majeur ou vous faites aussi auprès
non,
de mineurs?
Les mineurs,
vous faites les deux.
Voilà, les mineurs, ils ont leur séance le mardi et le jeudi.
D'accord.
Et les mineurs ont des séances supplémentaires qui sont faites par un enseignant de l'éducation nationale aussi.
D'accord.
Dans le même cadre que,
qui est
la scolarité.
Dans le cadre de l'EPS, en fait. Oui, voilà.
Parce qu'ils ont une scolarité obligatoire pour les moins de 16 ans, fortement encouragée pour les 16-18 ans. Et que dans ce cadre-là, eux, ils ont deux séances de sport supplémentaires par semaine avec l'éducation nationale.
Bon, avant de rebondir sur cette interview, je voulais m'excuser. Apparemment, j'ai mal prononcé le nom du moniteur sportif, monsieur Jean Pétri, alors, à confirmer, encore désolé s'il m'écoute. alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez rebondir? J'imagine que oui, quand même, il y a pas mal de choses qui ont été dites.
Non.
Alors, on enchaîne avec.
Non, il y a l'association. Évasion qui n'existe pas, il en parle à un moment donné.
Oui, bon, Madame Lisée le reprend, c'est effectivement les évadés. Ouais.
Voilà, et que c'est pas en lien avec notre association Génépi.
Oui.
Voilà, c'était juste à rappeler.
C'est une autre association, oui, qui font plutôt que des sports innovants, et le Génépi peut aussi proposer du sport dans le cadre de ses activités socioculturelles, mais c'est vraiment deux entités différentes, ouais, il faut bien le préciser. Mm.
Voilà aussi au niveau de... Ce qu'il faudrait rappeler aussi, c'est que les détenus peuvent avoir plusieurs choses à la fois sur les mêmes horaires, donc que ce soit promenade, sport, parloir, etc. Et donc forcément, ils doivent faire un choix, donc c'est un petit peu problématique dans tous les cas.
Oui, il y a assez peu de souplesse, c'est-à-dire que s'ils ont le créneau du sport et de la promenade en même temps, la promenade va pas pouvoir être reportée, donc faut vraiment choisir entre les deux.
Sachant que la promenade, par exemple la promenade du matin, ils vont pas savoir exactement à quelle heure elle va se situer, et donc pas sur un créneau de sport en même temps.
C'est ce que disait Madame Lisée dans son interview, ouais.
Alors, il y a quelque chose moi qui m'a un peu choqué dans cette interview. Il semblerait que les détenus sont tous fans du ballon rond et de la musculation. Je dément tout à fait cette information, même si effectivement c'est les principales occupations auxquelles ils ont droit. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont proposées en plus, et effectivement les détenus ne peuvent pas prendre d'initiative, enfin très peu d'initiative aussi pour proposer des sports qu'ils aimeraient faire. Alors c'est vrai que dans l'interview ça peut paraître très infantilisant de dire que c'est des grands enfants, ils aiment bien jouer avec le ballon. Bon, ce discours là il est très très limite. Après effectivement je pense qu'ils font comme ils peuvent pour organiser des sessions de sport. La cour de promenade, bon, il n'y a pas 15 000 choses à faire dedans, mais dire que tous les détenus aiment le ballon rond et la musculation, c'est totalement faux.
C'est vrai qu'ils parlaient tous les deux du coup du fait de, ils essayent donc de donner de nouvelles occupations, de nouveaux sports, de nouvelles choses comme ça, en disant que ils ont tenté de le faire mais que ça n'avait pas fonctionné. Alors oui, effectivement, donc ils ont tenté de le faire. Les détenus n'ont pas forcément été réactifs parce que c'est eux qui ont eu l'idée de mettre ce sport-là. Mais finalement, peut-être qu'en demandant directement l'avis des détenus, quel genre de nouveaux sports ils aimeraient pratiquer, peut-être que du coup, ils récolteraient plus de public finalement.
Sur la fin de l'interview, il va parler des mineurs. Et du coup, voilà, on veut juste préciser que les mineurs ont un rythme différent que les majeurs ou que les semi-libres au niveau du sport, puisque dans le cadre de l'éducation nationale, ils ont des cours de PS obligatoires et que du coup, ils ont leur séance de sport imposée le mardi et le jeudi.
Plus du sport, donc ils peuvent faire un peu plus de sport
plus,
que
voilà,
les majeurs.
Activités, ouais, tout à fait.
Je voulais aussi intervenir sur le rapport au poids des détenus en détention, parce que du fait de la sédentarisation et de rester énormément dans leur cellule, parfois beaucoup de temps allongé dans leur cellule, un rythme alimentaire aussi qui n'est pas le même, beaucoup se plaignent de prendre du poids, et beaucoup alors soit nous disent j'ai pris 10 kilos mais je m'en fiche, je les perds à la sortie, comme si effectivement le temps carcéral était du temps mis entre parenthèses, mais d'autres au contraire vont être très acteurs là-dessus et vont faire beaucoup de musculation et essayer de faire comme ils peuvent pour contrecarrer ça.
Eh bien écoutez, l'heure avance, alors on va peut-être enchaîner rapidement maintenant jusqu'à la fin de l'émission. On a une dernière interview à s'écouter, celle de Madame Larocque, la directrice du SPIP. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais vous saurez tout dans quelques minutes.
Avant ça, eh bien, on se fait une petite coupure musicale avec Star Academy et le titre Permission. À tout de suite. Je suis en compagnie de Madame Larocque, qui est directrice du SPIP, Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation. Bonjour.
Bonjour.
Peut-être rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce qu'est le SPIP ?
Alors, le SPIP, c'est un service de l'administration pénitentiaire. C'est un service qui travaille avec les autres services de la pénitentiaire que sont les maisons d'arrêt, les établissements pour peine, etc., sur des missions qui peuvent être communes ou des missions spécifiques. Le service pénitentiaire a d'abord une mission, on va dire, de favoriser la réinsertion des publics incarcérés. Donc ça, on le fait pas tout seul, hein, on essaye de travailler avec les collectivités, les autres services de l'État, pour faciliter la réinsertion des publics incarcérés et autant que faire se peut à travers l'aménagement de la peine, puisqu'on sait à travers des études aujourd'hui que des sorties aménagées permettent de mieux lutter contre la récidive que des sorties qu'on a appelées en son temps des sorties sèches. Mmh. Voilà, donc il y a ces missions-là du SPIP, mais il y a également des missions moins connues qui sont des missions en milieu ouvert ou sur saisine de magistrats mandants qui sont majoritairement les juges de l'application des peines. Nous assurons du contrôle et de l'accompagnement de personnes condamnées à une mesure de milieu ouvert La plus commune, c'est le sursis mis à l'épreuve. Hein. Les personnes ont des obligations à respecter et ils viennent nous en rendre compte. Mais également, nous suivons en milieu ouvert des personnes en aménagement de peine, telles que le bracelet électronique, le placement extérieur, la libération conditionnelle, etc. Voilà principalement les missions de ce service. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, le service d'Indre-et-Loire, c'est un service de 30 personnes. La cheville ouvrière, après on est plus sur des fonctions d'encadrement et de support. La cheville ouvrière, que sont les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, ils sont au nombre de 21 sur ce service et on prend en charge à peu près 1800 personnes. Donc un conseiller a en gros plus d'une centaine de personnes à suivre en milieu ouvert. En milieu fermé, compte tenu effectivement de ces missions, le pluridisciplinaire, ça prend du temps. L'articulation avec des partenaires, ça prend plus de temps. Donc par rapport à ça, les conseillers ont moins de dossiers en milieu fermé. Et comme on a mis en place une équipe dédiée cette année, on a voulu aussi mettre des effectifs assez conséquents. Donc les conseillers ont plutôt une soixantaine de personnes à suivre en détention, mais la préparation à la sortie et à l'aménagement de peine demande quand même pas mal de temps.
Est-ce que vous essayez de travailler de manière équitable en fonction de chaque détenu, ou est-ce qu'il y a des détenus qui sollicitent beaucoup plus de travail de votre part?
Alors, le premier...
Comment est réparti votre temps de travail?
Voilà, comment d'un conseiller. La première chose, c'est que le conseiller va travailler avec la personne, mais il faut que la personne soit d'accord de travailler aussi avec nous. Donc on va avoir quand même une sollicitation. Hein. Si la personne ne demande rien, on va le rencontrer quand même pour essayer de comprendre pourquoi il ne demande rien. Après, sur les condamnés, donc il y a quand même une distinction sur la maison d'arrêt de Tours. On a en gros 50% de condamnés, 50% de prévenus. Notre travail va être plutôt axé en direction des condamnés, sur lequel effectivement on a une date de fin de peine et on peut travailler de manière sûre par rapport à une date sur la sortie. Les prévenus, les choses sont beaucoup plus aléatoires, hein, et les prévenus vont, quand ils vont être condamnés, peut-être partir sur d'autres établissements, type établissement pour peine, voire très longue peine, hein, type maison centrale. Donc on travaille principalement sur les personnes condamnées qui ont des reliquats de peine qui nous permettent d'envisager un aménagement de peine à partir de la maison d'arrêt de Tours.
D'accord. Alors pour changer un petit peu de sujet, on sait qu'il y a des formations qui sont dispensées au sein de la maison d'arrêt. Madame Lisée, lorsqu'on l'interviewait, nous disait qu'elle n'était pas qualifiante. Dans ce cas-là, quel serait l'intérêt de proposer ces formations aux personnes incarcérées?
Alors, elles sont pas qualifiantes, mais elles sont similaires à celles qui peuvent être développées à l'extérieur. Hein. Tout le monde, dans la société civile, n'accède pas à une formation qualifiante. Il y a des prérequis. La difficulté aussi qu'a dû évoquer Madame Lisée et la chef d'établissement, c'est la durée de détention. On est sur une durée moyenne de 6-8 mois. Ça permet pas d'envisager, effectivement, une qualification qui va se passer sur 10 mois. Voilà. L'autre chose, c'est qu'on a un public en maison d'arrêt, hein, globalement, nationalement, mais ça vaut aussi pour la maison d'arrêt de Tours, de bas niveau, hein, des gens qui ont peu de qualifications, peu de diplômes, et donc avec l'éducation nationale, puisque c'est leur priorité d'action aussi, on va nous construire des actions de formation autour. Alors on a une action de formation sur l'acquisition de savoir de base avec le CRIA et l'entraide ouvrière à visée professionnelle. Hein. Là on essaye de donner des outils très concrets aux gens qui sont en situation d'illettrisme pour accéder quand même au milieu du travail, au monde du travail. Et puis une formation avec le GRETA sur de la sensibilisation à des métiers. Il s'agit principalement quand même de remettre les gens dans une dynamique de formation, dans une dynamique de projet professionnel. Voilà, chose qui n'est pas évidente quand on est incarcéré. Le système carcéral en maison d'arrêt a quand même tendance à infantiliser les personnes, en tout cas ne pas favoriser l'autonomie. Ils sont très dépendants et s'ils se laissent aller, très rapidement, ils peuvent vivre de manière très passive la détention. Donc voilà, ça les remet, cette dynamique de formation les remet dans une logique d'être acteur de leur parcours, de faire quelque chose, même si on n'arrive pas à de la qualification compte tenu de la durée des peines.
pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on rappelle qu'on est le Genepi et qu'on intervient pour la deuxième fois. Donc on fait notre deuxième émission sur le thème de la vie quotidienne en détention.
Et vous êtes dans Détour carcéral.
Détour carcéral, évidemment, tout le monde le sait.
Pour revenir, on va commencer par parler des sorties sèches. Donc les sorties sèches dont elle parle.
Ça constitue en une sortie qui n'est pas préparée et qui se fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que avant, le détenu allait être toute la semaine, tout le temps en détention. Et le jour de sa sortie vient, l'heure vient, on lui ouvre les portes et il sort comme ça.
Et ça va être généralement les personnes qui vont jusqu'au bout de leur peine, en fait, sans qu'il y ait eu de remise de peine supplémentaire. Une personne qui était condamnée, par exemple, à 6 mois de prison et qui, du coup, va sortir au bout des 6 mois sans qu'il y ait eu du coup les remises de peine supplémentaires finalement.
Et justement, c'est tout l'intérêt de la liberté conditionnelle.
Exactement.
Qui permet en gros de faire sortir le détenu avant la fin de sa peine, sous condition. Donc ça peut être avoir une obligation de soins, l'interdiction d'aller dans certains endroits, de
aller
porter,
pointer à la gendarmerie.
Voilà, aller pointer à la gendarmerie, tout ça. Et ça permet d'éviter les sorties sèches et sur les statistiques, d'éviter aussi la récidive.
Exactement, parce que c'est une sortie qui sera mieux préparée finalement. Donc,
au moins pensé et préparé par le détenu et ceux qui peuvent.
Et avec son conseiller du coup de probation. Ouais.
Bon, pour revenir peut-être un peu au CEPIP, j'ai oublié les chiffres, mais Madame Larocque en parle très bien. C'est vrai qu'il y a très peu de conseillers pénitentiaires pour le nombre de détenus à suivre, que ce soit en milieu fermé ou en milieu ouvert. Donc là, toute la question de la prise en charge se pose. Comment on peut accompagner au mieux des personnes en les voyant que... très rarement, quoi.
Oui, finalement, oui, c'est ça.
Pour revenir sur le travail en détention, on peut quand même préciser que le but du travail ou des formations qui sont proposées en détention, ça n'est pas tant d'apprendre des choses, mais c'est plutôt réapprendre à avoir un rythme de vie. Donc se lever le matin, être rigoureux pour aller au travail, etc. Et donc préparer à effectivement la sortie aussi, finalement. Donc voilà, respecter l'autorité, les règles, le supérieur hiérarchique, être assidu, etc.
Ça, c'est des choses qu'on détaillera sûrement un peu plus dans l'émission sur la réinsertion, puisqu'on aura une émission consacrée à ce thème. Du coup, ça permettra d'en parler plus longuement.
Voilà. Et pour rappeler vite fait aussi, a été abordée la question des associations qui participaient aussi avec le SPIP, donc l'entraide ouvrière. Alors eux, ils ont plusieurs pôles à Tours, il y a plusieurs actions de menées, dont une en détention. Et il y a le CRIA aussi, ça n'a pas été précisé, mais c'est le Centre Ressources Information et d'accompagnement pour le développement des compétences de base. Voilà, après je vous invite à vous renseigner un peu plus sur le sujet si ça vous intéresse.
Avant de passer à la deuxième partie de l'interview de Madame Larocque, directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Tours, nous allons écouter Triane, les prisons de Nantes.
Dans les prisons de Nantes, landi-du-di-du-dan, di-du-di, landi-lan, di-du-di-du-dan, dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier. Personne ne vint le voir, landi-du-di-du-dan, di-du-di-lan, di-lan, di-du-di-du-dan, personne ne vint le voir que la fille du geôlier, à la fille du geôlier. Un jour il lui demande, landi-du-di-du-dan, di-du-di-lan, di-lan, di-du-di-du-dan, un jour il lui demande, oui, que dit-on de moi, que dit-on de moi? On dit de vous en ville, landi-du-di-du-dan, di-du-di-lan, di-lan, di-du-di-du-dan, on dit de vous en ville que vous serez pendu et vous serez pendu. Mais il faut qu'on me bande, l'an, mais il faut qu'on me bande, déliez-moi les pieds, déliez-moi les pieds. La fille était jeunette, l'an, la fille était jeunette, les pieds lui a déliés, les pieds lui a déliés. Le prisonnier à l'air, l'an, le prisonnier à l'air, dans la Loire s'est jeté, dans la Loire s'est jeté. Dès qu'il fut sur les rives, landi-du-du-du-dan, di-du-di-landi-lan, di-du-du-dan, dès qu'il fut sur les rives, il se prit à chanter, il se prit à chanter. Je chante pour les belles, landi-du-du-dan, di-du-di-lan, di-du-di-lan, je chante pour les belles, surtout celles du geôlier, surtout celles du geôlier. reviens à Nantes, l'an-di-di-di-lan-di-di-lan-di-lan-di-lan. Si je reviens à Nantes, oui, je l'épouserai dans les prisons de Nantes, l'an-di-di-lan-di-lan-di-lan-di-lan. Dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier.
Travail existe en détention. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, justement, quel type de travail est proposé aux détenus, et si on peut parler aussi des modalités d'indemnisation, de rémunération, de salaire.
C'est un sujet sur lequel moi je suis pas l'interlocuteur favori. Hein. Moi j'ai pas en charge ce domaine-là. Nous ce qu'on essaye de faire.
Avec... Et ça participe au suivi, oui. J'imagine.
Oui. Alors le travail, Madame Lisée a dû vous le dire, en maison d'arrêt, hein, aussi en raison du turnover, etc. Et pas un travail qualifiant. On n'est pas là. On est surtout sur du travail à la pièce, des choses comme ça, avec des donneurs d'ordre qu'on a besoin. Voilà, qu'on fasse quelque chose très rapidement, mais c'est pas très qualifiant, enfin c'est pas qualifiant, c'est surtout voilà du travail à la pièce, répétitif, etc. C'est pas le cas dans tous les établissements de France, hein. Je viens dans des établissements pour peine, on a du travail qui permet la qualification de personnel, même du travail de pointe, hein. On travaille pour l'aéronautique, on travaille voilà pour mais bon, en maison d'arrêt c'est particulier, on est surtout du travail à la pièce avec des gens qui n'ont pas eu forcément des expériences professionnelles, des gens qui sont éloigné de l'emploi, voilà. Donc par rapport à ça, moi tout le volet recherche d'emploi auprès d'employeurs, etc., c'est réalisé par la direction de l'établissement. C'est pas un sujet simple, hein. Et puis la question de la rémunération, je vous dirais des bêtises si je vous donnais des informations détaillées, je ne les maîtrise pas. C'est clair, le sujet de la rémunération du travail, c'est une polémique par rapport à l'administration pénitentiaire où effectivement on déroge au droit du travail puisqu'on n'a pas de contrat de travail. On a une convention, hein. Après, sur la rémunération, je vous dirais des bêtises. Ce que je sais déjà, c'est que on n'est pas sur des journées de travail entières, c'est soumis au temps de détention, c'est soumis au temps à d'autres impératifs comme le parloir. La personne, elle va au parloir, elle va en audience, etc. Donc voilà, on n'arrive pas sur des rémunérations comparables avec l'extérieur. Nous, notre sujet par rapport au travail avec l'établissement, pour ce qui concerne principalement le SPIP, ça va être d'être vigilant sur les personnes qui sont isolées, et notamment isolées et indigentes, pour essayer de les faire classer au travail lorsque c'est possible. Voilà, ça c'est notre angle, enfin c'est notre mission à nous, SPIP, d'être vigilant par rapport à ces personnes-là qui n'ont pas de soutien avec l'extérieur. Et Madame Lisée l'a peut-être évoqué, il existe une commission qu'on appelle commission pluridisciplinaire unique au sein de tous les établissements de France, sur lequel l'ensemble des acteurs vont se réunir quand on classe des gens au travail. Voilà, le SPIP est présent pour essayer d'alerter sur des situations de personnes isolées qui ne sont pas assistées financièrement. Voilà. Au niveau du travail, c'est plutôt ça notre sujet.
Ok, très bien. Alors, il reste un dernier point de vos actions qu'on n'a pas bien abordé, c'est les activités socioculturelles qui sont proposées en détention. Justement, quelles sont-elles? Et est-ce que les détenus peuvent être, j'ose dire, acteurs, justement, pour mettre en place des ateliers qui leur permettraient de s'investir dans quelque chose?
Alors là encore, les choses sont différentes en établissement pour peine et en maison d'arrêt. En établissement pour peine, où les gens s'inscrivent dans la durée, voilà, leurs propositions sont plus retenues, écoutées, etc. Maison d'arrêt, voilà, c'est un peu compliqué compte tenu du turnover qu'on associe les publics à notre programmation. La spécificité de la région Centre, c'est qu'on travaille dans tous les SPIP de la région Centre avec un opérateur culturel qui nous réalise la programmation culturelle et l'ingénierie culturelle. Il nous aide, voilà, on s'est recentré, nous, ces dernières années, sur nos missions spécifiques d'exécution de la peine. Donc les conseillers, non, avec 100 personnes à suivre, n'ont plus trop le temps de s'occuper de ces activités-là. Donc on travaille avec un partenaire qui est la Fédération des œuvres laïques, qui nous propose une programmation. Ils ont aussi cette particularité sur l'Indre-et-Loire de nous aider aussi avec la bibliothèque municipale de Tours sur l'accès à la lecture, et ils nous font des propositions d'activités qui sont soit des ateliers, hein, donc la participation des personnes détenues à l'élaboration d'un projet socioculturel ou culturel ou de l'événementiel. Voilà. Dans d'autres établissements, on peut aller jusqu'à de la formation dans les métiers de la culture. C'est pas le cas ici, là, pour toujours ces mêmes raisons. Donc voilà, on est sur une programmation. La politique nationale et la Fédération des œuvres laïques du 37 l'applique complètement. C'est d'inscrire en fait la maison d'arrêt dans la programmation culturelle de scènes locales, hein, d'associations, de salles de spectacles, etc. Que la maison d'arrêt soit au même rang que d'autres publics qu'on appelle les publics empêchés. Mais qui permettent effectivement qu'il y ait un accès à la culture, soit à travers des ateliers, soit à travers de la diffusion de concerts, de choses comme ça. Donc voilà, un travail intéressant, assez divers. Moi, enfin, je peux vous citer deux, trois trucs. Il y a la LPO qui intervient, qui fait un atelier. On a un atelier de théâtre avec Cano Lopez. Voilà, il y a de la diffusion de certaines scènes locales. Voilà, donc quelque chose qui s'inscrit dans le territoire spécifique. Et puis on participe, grâce à la FOL aussi, à des événements nationaux, mais qui se déclinent aussi sur le département, tels que, je vais pas vous dire de bêtises, mais la semaine des poètes, des choses comme ça, quoi. Voilà. 1000 lectures, déclinaison de grands événements nationaux, et toujours recherche d'inscription dans ce qui se fait localement, ne serait-ce que pour que la personne incarcérée, elle voit bien que les choses s'inscrivent dans son territoire. C'est pas un truc déconnecté qui est parachuté et dehors, voilà. Ça peut lui donner envie de continuer cet accès à la culture sur laquelle ils n'avaient pas forcément une mobilisation spontanée.
Bah écoutez, merci beaucoup Madame Larocque d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et je sais pas si peut-être si vous avez quelque chose à rajouter.
Juste peut-être, mais c'est une dimension un peu plus politique. Aujourd'hui, les SPIP sont des services qui ont été créés il y a une dizaine d'années. Alors, ils sont pas nés de rien. Ils sont nés de services qui existaient, qui ont fusionné, mais leur véritable identité, elle date quand même que de 1999. On est là sur plus d'une dizaine d'années. On est aujourd'hui à un moment charnière de l'évolution de ces services à travers une réforme qui est portée aujourd'hui devant l'Assemblée, hein, une réforme pénale, mais il y a des choses aussi sur lesquelles ces services sont attendus, comme on va dire les recommandations européennes de la probation, l'évolution de leurs pratiques. On est à un moment clé là où il y a des choses à jouer, et le Premier ministre a annoncé 1000 créations d'emplois sur 3 ans. Voilà, je crois que nous, on a un tournant là à travailler, il ne faut pas qu'on se loupe.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, eh bien écoutez, on arrive vraiment à la fin de cette émission. On a peut-être une chronique préparée par notre ami Paul.
Exactement, place à l'agenda culturel. Déjà,
faudrait un jingle sur la chronique.
Ouais, oui, exactement. Donc déjà, on sera présent lors du printemps de Bourges dans la ville. On n'aura pas de stand, mais on se baladera dans la ville lors du printemps de Bourges. Du 24 au 27 avril, on organisera des activités et des discussions avec le public.
Et il n'y a pas que le groupe de Tours, d'ailleurs, c'est une.
Ce sera toute la
un
région
événement régional, ouais.
Exactement. Sinon, au niveau film, alors il y a un téléfilm français en 2 parties qui s'appelle L'Abolition de Jean-Daniel Varegg, qui retrace l'histoire de Robert Badinter dans son combat contre la peine de mort jusqu'à son abolition, qui est vraiment très intéressant. Voilà, sinon un livre Longue peine, le pari de la réinsertion de Philippe Laflaquière, qu'on a eu l'occasion de rencontrer lors d'une réunion Genepi,
oui.
Qui est un magistrat qui a exercé de nombreuses années en tant que vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Toulouse.
Ça en jette.
Et qui,
ça en jette.
Voilà, et qui justement va nous parler de la libération conditionnelle des détenus et de l'aspect positif de cette mesure sur la réinsertion des détenus. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, il est temps de finir avec cette deuxième émission de Détour carcéral. On vous donne rendez-vous toutes les semaines. Alors désolé, on n'a pas l'agenda en tête, mais il sera posté très rapidement sur le site internet. En attendant, eh bien, vous pouvez déjà réfléchir au thème du mois prochain, à savoir l'isolement, en nous envoyant un mail à groupe.to@genepi.fr ou en nous sollicitant à travers le site internet de Radio Campus, radiocampustour.com.
Et n'hésitez d'ailleurs surtout pas, parce qu'on aimerait bien pouvoir rebondir sur vos questions et ou remarques à la prochaine émission. Ça permettrait de rendre l'émission un peu plus interactive.
Très bien. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Et on se quitte avec l'hymne du Genepi, Les Amis de ta femme, Cayenne.